Lechaim, Lechaim. Donc on est dans Perek Lametet, on est dans le chapitre 39, le deuxième cours aujourd'hui sur le chapitre 39. Donc pour faire un petit résumé de ce qu'on a étudié jusqu'à maintenant, à partir du chapitre 35, on a expliqué l'importance de l'action, et que a priori la kavana n'était pas tellement importante. Ce qui importait, c'était l'action. À partir du chapitre 38, on a commencé à expliquer l'importance de la kavana. L'importance de la kavana sur l'action. Ce qu'on a expliqué à partir du chapitre 38. Alors on a conclu dans le chapitre 38 en expliquant qu'il y avait deux types de kavana. Il y avait la kavana analysée et la kavana instinctive. La kavana analysée, on a dit, c'était une kavana que je réfléchis, je prends du temps, je réfléchis énormément à la chose. Et après, ça va créer un certain sentiment dans ma tête. Ça s'appelle la kavana analysée. La kavana instinctive, c'est autre chose. La kavana instinctive, c'est le fait que je suis juif, donc... J'ai une kavana, donc ça veut dire que quand je fais la tefila, quand je viens aux prières, j'ai une certaine kavana que je ne suis pas capable de définir, mais que je peux pertinemment dire qui existe. Cette kavana, ça s'appelle la kavana instinctive. D'accord ? Donc kavana analysée, kavana instinctive. Là maintenant, dans le Perek Lametet, c'était chapitre 38. Maintenant, Perek Lametet, chapitre 39, on est rentré. Chapitre 39 et 40 sont les deux chapitres, a priori, les plus compliqués du Tanya. On est rentré dans un truc, a priori, aucun rapport. De rentrer a priori dans un sujet aucun rapport. On a commencé à parler des concepts de Neshama, de Bria, de Yetira, etc. Pour résumer rapidement. Donc on va parler de beaucoup de concepts. D'accord ? Et c'est seulement à la fin du chapitre 40 qu'on pourra avoir un résumé et qu'on pourra comprendre où il voulait en venir l'Admor HaZaken. Alors, quel point on a déjà expliqué dans le chapitre 39 ? On a déjà expliqué le concept des quatre mondes. Qu'il y avait quatre mondes. Atzilut, Bria, Yetira, Asiya. D'accord ? Que quand HaKadosh Baruch Hu va créer le monde, ça va se passer en quatre phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de l'émanation. D'accord ? C'est-à-dire c'est la phase dans laquelle le matériel n'existe pratiquement pas. Et après, ça va aller progressivement. D'accord ? On va passer par former, par créer, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la quatrième étape, qui est Asiya, qui est notre monde. Donc c'est quatre phases. D'accord ? Bon, peu importe, je ne rentre pas dans les détails. On n'est pas rentré dans les détails la semaine dernière pour expliquer quelles sont ces quatre phases. On a expliqué que de la même manière qu'il y avait quatre phases dans la création du monde, de la même manière, les Neshamot peuvent se situer dans différentes phases. C'est ça ce qui va faire la différence entre ma Neshama et la Neshama d'un tzaddik. Qu'est-ce qui fait la différence entre ma Neshama et la Neshama d'un tzaddik ? C'est que ma Neshama, elle se trouve à la quatrième phase, elle se trouve en bas. Alors que le tzaddik, il pourrait être plus haut. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a expliqué. Donc, alors que la Neshama du tzaddik pourrait être plus haut. Donc, on a expliqué après le concept de Atzilut, Bria, Yetira, Asiya. On a expliqué que, de manière générale, les tzadikim, ils se trouvaient dans quel monde, M. Yaakov ?
Atzilut.
Non, pas Atzilut.
Bria.
Exactement. On voit ceux qui ont suivi.
Et avec le Kavana, hein? Avec le Kavana, ils sont
où ? Non, il n'y a pas de Kavana. Pour l'instant, il n'y a jamais Atzilut. On a expliqué que même les tzadikim, avec leur Kavana, avec la plus grande Kavana qu'ils peuvent avoir, ils peuvent aller que dans le monde de Bria. Alors que les Malachim, David, ils sont où ?
Les Malachim,
ils sont où ? Ils sont juste en dessous. Rappelez-vous, les Malachim sont juste en dessous. En dessous des tzadikim. Pourquoi on a expliqué ? On a expliqué parce que la différence qu'il y a entre le malach et le tzaddik, c'est que le malach est un robot, alors que le tzaddik est capable d'innover. Nous, par rapport à ça, si on n'est pas capable d'innover et de créer une kavana analysée, on est capable seulement d'avoir une kavana instinctive, donc on devient comme des animaux. Donc en d'autres termes, on devient comme des anges. Les anges, c'est la même chose. Les anges, pourquoi ils sont au monde de Yetzira ? Parce que les anges n'innovent pas. C'est instinctif, ils n'innovent pas, ils ne sont pas capables de créer, ils n'ont pas la qualité de l'art. Donc nous, a priori, avec notre kavana qu'on a, c'est-à-dire le fait, comment je fais une mitzvah parce que je suis juif ? D'accord ? C'est pas une kavana, j'arrive pas à la définir. On est dans la troisième phase, donc ni Atzilut, ni Bria, mais Yetzira, la troisième phase. Mais, on a expliqué qu'il y a certains moments, comme par exemple la journée qui vient de se passer aujourd'hui, la journée de Rosh Chodesh, ou le Shabbat, auquel... Nous, même les Neshamot Israël qui ne sont pas des tzadikis, mais ça veut dire qu'ils sont jamais à la deuxième phase, il y a des moments dans lesquels on peut faire un switch et passer à la deuxième phase. Comme Shabbat et Rosh Chodesh. Par exemple, aujourd'hui, quoi qu'on fasse, même si on est en train de faire une Avera, notre Neshama avait un rapport avec le monde de Yetzira. Comme si on était des tzadikis.
Shabbat, c'est par rapport à ce qu'on a fait qu'on ait une Neshama en plus.
Oui. Et Rosh Chodesh également. D'accord ? Peu importe ce qu'on fait.
Le monde instinctif,
ça ? Salut, ça va ? Installe-toi. Alors, je te préviens, c'est une série de cours, donc peut-être tu vas pas trop comprendre aujourd'hui, mais je te ferai un résumé si tu veux.
Quand tu dis créer, ça veut dire trouver des chidouchim, c'est quoi créer ?
Innover. Quand je dis créer, ça veut dire innover. D'accord ? Bon. c'est. Alors après, donc là maintenant on va s'arrêter au Mash Azochot. Mash Azochot, s'arrêter ces pages ici. Oui.
Nous, à la base, on est où? Quel
Sia? Nous à la base. Alors, nous à la base on est à Sia. Oui. À la base on est à Sia, on est tout en bas. Maintenant, si on fait une mitzvah avec une kavana instinctive, on passe au monde de Yetzira. D'accord? Si on arrive à faire une mitzvah avec une kavana analysée, on passe au monde de Bria. D'accord? Atzilut, on touche jamais à Atzilut. Alors là, la Gemara Zaken, il pose une question très simple. Il dit, Uma Shezochot. A priori, puisqu'on a expliqué que les malachim et les hommes rentrent dans la même catégorie. Pourquoi? Puisque les malachim, on a dit pourquoi ils peuvent jamais dépasser le monde de Yetzira. Parce que les malachim n'innovent pas. A priori, nous aussi, on n'innove pas. Si on n'utilise que la kavana instinctive, nous aussi, on est comme des animaux. D'accord? Nous aussi, on est comme des animaux, et quelque part, c'est normal. C'est normal si on aime Dieu, parce que c'est instinctif chez nous. Alors pourquoi nous? Comment ça se fait que nous, on a cette chance que dès que ça arrive Shabbat et Rosh Chodesh, tac, on fait un switch et on peut monter? Pourquoi les malachim n'ont pas cette chance-là? Vous comprenez la question? Puisqu'on a expliqué que c'est la même... Les anges et ceux qui utilisent la kavana instinctive, donc c'est nous, la majorité du temps, c'est la même chose. Pourquoi moi, je peux monter au monde d'au-dessus Shabbat et Yom Tov, au monde de Bria, alors que le malach ne pourra jamais? Alors il dit ici, Umash Ezochot. Umash Ezochot. Donc ça, c'est, on s'est arrêté ici la semaine dernière, on a dit rapidement ces quelques lignes-là. Umash Ezochot, Neshamot Elul, Alot, Le Malama Malachim. Le fait que les Neshamot, ces Neshamot-là, donc c'est-à-dire la plupart de nos Neshamot, qui font une mitzvah avec une kavana instinctive. Je rappelle, une kavana instinctive, ça veut dire, je ne suis pas capable de dire que j'ai eu la kavana quand j'ai fait la mitzvah, mais bon, je sens que je l'ai fait parce que je suis juif. Et ça vaut quelque chose. Alors pourquoi moi, quand je fais la mitzvah avec une kavana comme ça, tu me dis Shabbat et Rosh Chodesh, on monte de niveau. Pourquoi les anges n'ont pas cette chance-là?
Exactement pareil, Shabbat et Rosh Chodesh, ou peut-être Shabbat?
Pareil, kif. Umash Ezochot Neshamot Elul Le'ot Le Malama Malachim. Pourquoi? La raison pour laquelle ces Neshamot-là ont le mérite de monter les Malama Malachim plus haut que les anges. Av Shavdu Bitriluchim Utivim. Bien que ces Neshamot, qui sont nous, ont servi Dieu seulement avec un amour et une crainte instinctif, naturelle. Donc a priori, on est comme des anges. Il n'y a pas de différence. Pourquoi les anges n'ont pas cette chance-là et nous, on a cette chance? Aïn Mishum Shalide Trilu Chimushelaem Itkafia Sitra Haram Lubeshet Begufa. Tu dis, c'est très simple. Quand tu dis la différence, qui est la seule différence, tu as raison que techniquement, les anges et nous, c'est la même chose. Les anges, c'est instinctif. C'est-à-dire le malach Michael, il ne peut pas se lever un beau jour et dire « j'ai envie maintenant de représenter la sévérité ». Ça ne marche pas. Il représente la bonté, c'est tout. Il ne peut pas représenter autre chose. Nous aussi, si on sert Dieu avec un amour et une crainte instinctif, on est les mêmes. La seule différence, c'est que nous, on a autre chose. Nous, on a le libre-arbitre. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est quelque chose que le malach n'a pas. Ça veut dire comme ça. Le malach n'a pas le libre-arbitre. C'est-à-dire, même si moi, quand je vais faire la mitzvah, ça va être instinctif, parce que bon, je suis né comme ça, et parce que j'aime Dieu, et parce que c'est comme ça, je suis né comme ça, mais puisque j'avais le choix de faire le contraire, puisque j'avais le libre-arbitre, j'avais le choix de faire le contraire, donc quelque part,
ça m'élève,
et on va considérer comme si que c'était une kavana analysée.
C'est à ça qu'on parle, on dit, il y a fait shahachat,
Oui, exactement. 100%, c'est ça, ouais. D'accord. Donc, Aïnou Mipie, Chalidé, Trilo, Chimouchelaem, Itkati, Asitra, Haram, Loubéchet, Begoufam, Ben Diprinat, Somer, Alirbosh, Atavot, Oule, Chavran, Ben Diprinat, Vassetov, Canal. Parce que ça soit que dans le plan négatif, ça veut dire de ne pas faire de mal, ou que ce soit dans le plan positif, de faire du bien, V'em Ayouba, Leprira, l'homme qui était en bas dans ce monde-ci, avait le libre arbitre, avait le choix. L'Ifror Berach, Hazé Shalom, il aurait pu choisir le mal, de faire le mal. Ou Vacharou, Betov, et on a choisi le bien. Les kafia, les citra, rara, les stalka, les kara, des kouchabrou, qui trônent ou les canal. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut expliquer cette mouazaken? Il veut expliquer, c'est très simple. Il veut te dire, c'est vrai que, techniquement, les malachim et nous, c'est la même chose. Les malachim, c'est instinctif. Et nous aussi, quand on fait une mitzvah, la majorité du temps, c'est instinctif. On peut pas dire que j'ai réfléchi à l'importance de la mitzvah. C'est vrai, tu as raison. Mais puisque, techniquement, j'aurais pu ne pas faire la mitzvah, j'avais le choix de ne pas le faire. Alors que le malach, est-ce qu'il avait le choix de ne pas le faire?
Non.
Donc, quelque part, c'est considéré comme si que j'avais une kavana analysée. Alors, je peux pas dire que c'est comme une kavana analysée, puisque dans les faits, c'est pas une kavana analysée. J'ai pas réfléchi pour faire la mitzvah. Mais à certains moments, Dieu me considère comme si que c'était une kavana analysée. C'est quoi ces certains moments? Shabbat et Rosh Chodesh. Il y en a qui rajoutent Yom Tov aussi, hein, en passant.
C'est pas uniquement un rapport avec le libre arbitre. Très bien que vu que tu as Dieu devant tout, les anges ils ont Dieu devant eux, ils peuvent pas faire autre chose. Ils savent que la vérité elle est là.
Non,
mais nous on n'a pas Dieu devant nous.
C'est ça ce qu'on a expliqué, non. On a expliqué que le concept de l'ange, c'est que c'est pas parce qu'il voit Dieu qu'il veut pas faire le contraire. C'est pas comme si je te dis, toi, imagine-toi que tu voyais Dieu, jamais on aurait fait une avéra. Ben, non, c'est pas ça le concept de l'ange. Exactement, c'est pas sa nature. L'ange ne peut pas faire du mal.
D'accord.
L'ange, c'est un robot, c'est une machine. Même si tu lui montres le meilleur mal au monde, il n'est pas intéressé, c'est un robot. Il est programmé comme ça. Il fait du bien. Il ne peut pas faire le contraire. Donc, l'homme, on a le choix. Alors, c'est vrai que la majorité du temps, quand on fait une mitzvah, c'est une mitzvah qui est... C'est pas une kavana à analyser. On ne peut pas dire qu'on a analysé la mitzvah. C'est machinal. Mais, puisque techniquement, on avait le choix de faire le contraire,
on a une conception du bien et du mal, déjà.
Donc, on a un mérite de plus par rapport à l'ange. Et c'est pour ça que Dieu te dit... À certains moments, je considère comme si tu étais un tzaddik en train de faire une mitzvah.
Le penchant.
C'est certains moments, c'est quand ? C'est Shabbat et Rosh Chodesh.
Shabbat et Rosh Chodesh.
Shabbat et Rosh Chodesh. Aujourd'hui. C'est pas exactement une nouvelle neshama. Alors, je rentre pas dans...
Il
y a une élévation. L'âme, il y a une élévation de l'âme à ce moment-là, qui fait que à ce moment-là, l'âme, si tu veux, on perçoit les mêmes bonus que les tzaddikim. C'est la même chose. À ce moment-là, on est au même niveau que les tzaddikim. Rosh Chodesh, c'est très spécial.
Il y a moins de mérite personnel.
Shabbat, on reçoit une
même oui.
Donc on a moins de mérite personnel.
C'est pas forcément par rapport à la Neshama. Il y a des moments que Dieu a fixé comme un bonus. C'est pour ça que j'ai dit que Yom Tov, pas tout le monde est d'accord qu'il y a ce même phénomène qui se passe Yom Tov. Bien que Yom Tov, on a également une Neshama supplémentaire.
Et Kippour ?
D'accord ? Ah, la même chose, Kippour, c'est un Yom Tov.
Donc, Kippour, c'est Shabbat, après.
C'est un Yom Tov. C'est Yom Tov qui a appelé Shabbat Shabbaton. Non, c'est Shabbat, il faut que ce soit Shabbat. Shabbat et Rosh Chodesh. Il y en a qui rajoutent aussi Yom Tov. Bon, quoi qu'il en soit. Iné kol ze ubemador un neshamot umekom amidata. Tout ce qu'on vient d'expliquer ici, c'est seulement ve iné. Donc vous avez ve iné kol ze.
Ouais.
Ve iné kol ze. Voilà. Non, tu n'as pas tout ici. Quelle page 104 ouais.
5e.
Ve iné kol ze ubemador un neshamot umekom amidata. Maintenant on va faire une différence. Encore une fois, ça c'est un nouvel élément qu'on va apprendre. A priori on va croire que ça n'a aucun rapport avec le but où on veut en arriver avec la Kavana. Mais quand on arrivera à la fin du chapitre 40 et qu'on va recomposer le puzzle, là on verra comment ça avait un grand rapport. Alors encore un nouvel élément qu'on va apprendre. Jusqu'à présent, on a fait une seule différence. Instinctif, analysé. Donc instinctif, analysé, monsieur David, ça correspond à quel monde ? Bria. Instinctif et analysé, ça correspond à Bria et à Yetzira. On est bien d'accord ? Très bien. Maintenant on va rajouter encore un autre élément. Encore un nouvel élément. Et une école, c'est toute cette différence qu'on a expliquée ici, la différence entre le niveau instinctif et le niveau analysé, mais que, à certains moments, qu'est-ce qu'on a dit? Même la kavana instinctive peut atteindre le niveau de la kavana analysée, comme Shabbat et Rosh Chodesh. Kolze, ou bemador aneshamot ou makom amidata. Tout ça, c'est uniquement ce qui concerne l'endroit dans lequel aneshama se trouve. Ça veut dire que là, maintenant, on va rajouter une nouvelle différence. On va faire la différence entre l'aneshama et l'impact de la Torah et mitzvot qu'on fait. Des mitzvot qu'on fait. Je répète, on va faire la différence entre ma neshama, entre le moi, et entre l'impact de ce que je fais. Ça veut dire quoi ? Ça voudrait dire, d'après ce qu'on va expliquer, qu'avec mes actes, je peux faire quelque chose, alors que moi, je ne suis pas. C'est comme si je vous dirais un exemple aujourd'hui, c'est comme si je jette une flèche, d'accord ? Moi, je reste ici, mais la flèche, elle est déjà arrivée là-bas. C'est la même chose. On va expliquer que la Torah et mitzvot qu'on fait vont créer une réalité dans le monde que, à la limite, nous, on ne fera pas partie de cette réalité. Moi, je resterai où je suis. Ma neshama reste où elle est. Mais la flèche que je vais lancer, elle peut aller très très haut. Et on expliquera que c'est ça ce qui se passe quand on monte au Gan Eden en haut. Quand on monte au Gan Eden en haut, si Dieu veut, et qu'on dit qu'à ce moment-là, on profite de nos mitzvot, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est là qu'on profite des flèches qu'on a jetées. On a jeté des flèches et c'est là qu'on profite des flèches. Donc là, je vous ai dit en gros. Maintenant, on va voir dans les mots. Cette différence qu'on a expliquée entre instinctif et analysé, donc a priori tout est bien défini, d'accord ? Ça veut dire c'est où tu es dans Bria ou tu es dans Yetzira, tu peux pas être dans les deux. Certains moments, tu as un bonus, au lieu d'être dans Yetzira, on te fait un switch, tu passes à Bria, mais on peut pas être partout à la fois. Ce concept-là, qu'on doit être défini dans un endroit précis, c'est seulement par rapport à l'aneshama, et pas par rapport à la flèche que l'aneshama envoie, pas par rapport à l'impact que ça a à la Torah et Mitzvot. Ah ! Donc je vais aller un peu vite, après je ferai un résumé. Toratan d'Avodatan, la Torah et le service, donc ça veut dire comprenez Torah et mitzvot qu'on fait. Nichlalot mamash biyut svirot shen prinat elokut. La Torah et mitzvot qu'on fait, eux, ne sont pas limités par rapport, vous vous rappelez ce qu'on explique, on a expliqué qu'il y a quatre phases dans la création du monde. Donc on a dit qu'on peut pas être aux quatre phases en même temps. C'est où tu es à la première, deuxième, troisième ou quatrième. Nous en général, on tourne entre la troisième et la quatrième. Mais je peux pas être... Bon, le maximum, Shabbat et Rosh Chodesh, je monte à la deuxième. Je peux pas être partout à la fois. Par contre, la Torah et les mitzvot, même si je reste à la quatrième phase, la Torah et les mitzvot, ils vont s'intégrer directement à la vitalité qui se trouve dans la quatrième phase. Et par cette vitalité-là, il y a un ascenseur qui va faire que ça peut monter jusqu'à la première phase et jusqu'à encore plus haut. C'est illimité. C'est le concept de la flèche. Dans les mots. Le Or en Sof, mitiachet ba'em betachlit ha'ichud, va'inu biyut sirot de bria, alede trilo chimotichliim, ou biyut sirot de yitzira, alede trilo chimotiviim, ou vetochan melubashot yut sirot d'atzilut ou miyuchadot ba'em betachlit. Explique comme ça. Le concept des 10 sphirotes. Alors ça, c'est, on n'a pas vraiment le temps et c'est pas le moment de rentrer dans le concept des 10 sphirotes. Juste pour expliquer la différence. Le concept des 10 sphirotes, ça veut dire la vitalité qui se trouve à chacune de ces 4 phases-là. C'est-à-dire le Dieu qui se trouve à chacune de ces 4 phases-là. La vitalité qui se trouve à chacune de ces 4 phases-là, comme on avait eu l'occasion de l'expliquer il y a quelques semaines, toute la vitalité est la même vitalité. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué? Très bien. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait une mitzvah, on touche directement cette vitalité. Et donc, si on touche cette vitalité, automatiquement, la flèche, on va jusqu'en haut. Nos limites, ça monte sans fin. Alors, ça va être valable des deux côtés, malheureusement. L'impact d'une mitzvah et l'impact d'une avéra. Quand on fait une mitzvah, c'est comme si on envoie une flèche. D'accord? J'envoie une flèche. Et donc, en vérité, la force d'une mitzvah est sans fin. On n'est même pas capable d'analyser l'impact d'une mitzvah. Et c'est pour ça qu'on dit que quand on est au Gan Eden, les tzadikim, imaginez-vous Rabbi Shimon Bar Yochai qui est niftar il y a 2000 ans, il est encore en train de profiter des mitzvot qu'il a fait il y a 2000 ans. Parce que c'est sans fin, la flèche elle monte toujours. C'est sans fin, ça s'arrête jamais. Malheureusement pour la Averot, c'est la même chose. C'est la même chose pour la Averot. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David dans le psaume 51? Il a dit « Vechatati nagdi tamit ». Ma faute est toujours devant moi. Pourquoi? Pourtant on dit qu'il a fait teshuva. On dit que ta faute est toujours devant toi. Parce qu'on dit que chaque fois, il montait à un niveau supérieur, supérieur, supérieur.
Là, attends, ça marche. Ça a tout encore transpercé.
C'est ça. Ça a tout transpercé. D'accord. Donc en vérité, une avéra, on dit qu'un tzadik, il est constamment en train de réparer ses avérotes ou les avérotes du peuple. Parce qu'une avéra, en vérité, ça ne se répare jamais. La seule chose qu'on peut faire, c'est qu'à un certain moment, on peut te déclarer innocent au jugement. C'est tout. Mais le mal sera fait.
On n'a pas dit à un moment que les avérotes qu'il a fait, ils sont même transformés en...
Ah, c'est autre chose. Oui. En ce cas-là, c'est autre chose.
C'était
Shuvah Me'ava. Si on réussit à transformer la flèche, d'accord? Si on réussit à transformer la direction de la flèche, t'as tout gagné.
D'accord.
Mais tant que t'as pas réussi à faire ça, comme le roi David n'a pas réussi. D'accord? Il a dit qu'il a pas réussi, il a dit, mais c'est pas négatif qu'il dit ça, au contraire.
D'accord.
Ça veut dire qu'il montre qu'il est en train d'arranger constamment. Au contraire, c'est très positif ce qu'il est en train de dire. Oui.
Il n'y a pas un système de compensation?
C'est-à-dire?
Ça veut dire que la Avera, quand tu dis qu'elle a une portée très très importante, à l'inverse, faire des mitzvot,
c'est
une portée importante.
Est-ce que ça mais c'est des flèches séparées.
J'entends, mais ça ne se compense pas.
C'est pas ben non, c'est des flèches séparées. Mm-hmm. Tu comprends? L'un n'efface pas l'autre.
L'action des deux, elle a...
Mais le bilan, au final...
Après, le bilan, ça c'est le jugement, mais ça change pas que le mal est fait, tu comprends? Une personne, elle peut faire du mal à un bras alors qu'elle va se masser l'autre bras, c'est possible. Ça change pas que... Si tu vois le bilan final, tu vas dire, bon, le gars, il est un peu... Non, mais ce que je veux dire, c'est que... C'est deux flèches différentes. C'est deux flèches différentes. Bon. Ma chaîne, qu'elle est neshamot, elle est michalot be'elukou de yutfirot, elle a omdot be'echalot, ou madorin de bria, ou yetira, ve'lenim izivyashrina, ou or en sava ou chouamiyuchal be yutfirot de bria, ou de yetira, ve'ou zip toratan d'avodotan namash. Donc, là, on a expliqué une nouvelle différence. On dit jusqu'à maintenant, on a tout calculé, on a dit, il y en a qui sont yetira, il y en a qui sont bria, et on va pas n'importe où quand on veut, il y a un ordre ici, c'est pas la pagaille ici. D'accord? Si t'es dans yetira, t'es dans yetira, t'es pas dans bria. Là, on explique que ça, c'est valable uniquement pour l'aneshama. L'aneshama, c'est moi. Par exemple, moi, je suis là, même si j'ai fait une mitzvah, mais je suis resté le même. Je suis toujours resté le même. Je n'ai pas changé. Donc, je suis resté le même. C'est vrai. La seule chose sur laquelle...
Je ne chante pas, s'il te plaît. Si je voulais chanter...
La seule chose sur laquelle on peut dire que elle est illimitée, et que là, il n'y a pas de limite, ça veut dire que ce n'est pas que je suis limité à première phase, deuxième phase, troisième phase, quatrième phase, c'est l'impact de la Torah et des mitzvot. C'est la flèche que j'ai lancée. Et donc comme ce que je viens de vous expliquer, ve uziv toratan zavodatan mamash, qui sera mitzvah et mitzvah. Ça, il reprend un concept qu'on avait étudié dans le chapitre 37. Qu'est-ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 37? On avait dit que le salaire d'une mitzvah est la mitzvah elle-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le salaire d'une mitzvah est la mitzvah elle-même. Tu fais bosser quelqu'un, D'accord. Après, tu lui dis, tu sais, c'est quoi ton salaire? C'est que tu as bossé.
Non.
Ça marche pas.
C'est la Mishnah, c'est une autre.
Non. Alors justement, la Gemara Zakat, chapitre 37, il avait expliqué autre chose. Je crois que c'était pas là. Il avait expliqué, non, il y a deux mois. Il avait expliqué dans le chapitre 37, on avait expliqué que c'est quoi le concept que le salaire de la mitzvah est la mitzvah. C'est en vérité, c'est le concept de la flèche que je viens d'expliquer. Le salaire de la mitzvah est le fait que j'ai jeté la flèche. Et au Gan Eden, on pourra me donner que les flèches que j'ai jetées. Je ne pourrai plus jeter des nouvelles flèches. C'est pour ça qu'on dit qu'une mitzvah qu'on fait ici, quand on est en haut, on regrette. Comme il disait Rabbi Levi Yitzhak Vernitchev, il disait comme ça. Il disait, si on avait amené un tzitzit au Gan Eden, tout le Gan Eden aurait brûlé. C'est pas des tzadikim, ils racontent pas des phrases comme ça, c'est pas du folklore. Il le pense, c'est vraiment vrai, c'est vraiment comme ça. Donc quand on dit tzitzit, pour nous, tzitzit, tellement c'est une mitzvah banale qu'on n'y pense pas. Tzitzit, on oublie carrément. Est-ce que ça nous a déjà dérangé, par exemple, de rentrer avec le tzitzit de toilette? Tzitzit katan, je parle, hein. Bon, ça veut dire, on oublie complètement, on le fait par routine.
On n'a pas le droit.
Et qu'est-ce qu'il te dit? Bien sûr qu'on a le droit. Non, mais je te dis, mais ça veut dire. C'est-à-dire, pourquoi la question se pose même pas? La question se pose même pas. D'accord?
Tu laisses poser la question quand même.
Bon, peut-être à un certain niveau. Hein.
Et ça rentre.
Oui? Alors, et pour. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le Rabbi Levi Yitzhak Vernitchev? Il dit, s'il y avait un tzitzit qui venait au Gan Eden, tout le Gan Eden aurait brûlé.
Pourquoi?
C'est exactement ce que je viens d'expliquer ici. Le tzitzit, c'est une flèche. D'accord? Le tzitzit, c'est une flèche. Ça veut dire que c'est une flèche énorme, la lumière est énorme, c'est une lumière sans fin. Au Gan Eden, on n'est pas capable de créer ces nouvelles lumières. Et si tu amènes cette lumière au Gan Eden, le Gan Eden explose, il n'est pas conçu pour. La seule chose qu'on est capable de faire au Gan Eden, c'est réceptionner les flèches qui ont déjà été jetées, et essayer d'en profiter, essayer de comprendre quel était l'impact de ces flèches-là. Rappelez, c'est quand même l'exemple que je vous avais donné il y a quelques semaines, avec on fait rentrer quelqu'un dans une cabine de pilotage, on lui dit, appuie sur les boutons, tous les boutons, voilà, t'es dit, sur le côté droit tu peux appuyer, et côté gauche tu appuies pas. Maintenant, tu vois pas le cockpit, c'est bloqué. On te dit, voilà, tu appuies ici, et ici tu appuies pas. À un moment, t'en as marre, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais quand j'appuie là? Ça fait rien là, il n'y a rien qui se passe. On te dit, si, tu fais, continue, ici tu appuies, et à gauche tu appuies pas. D'accord? Bon, j'appuie, mais la gauche est tentant, d'accord? Il y a des boutons fleurissants. et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive en haut? Quand j'arrive en haut, on ouvre le rideau. On dit, mais là par contre, les boutons sont bloqués. On dit, voilà, ici tu as construit, ici tu as détruit. Après, on est capable que de réceptionner les flèches. Ve'uziv toratan davodatan mamash. Donc avec ça, ça nous explique beaucoup de choses. D'accord? On arrive à comprendre avec ça, comment on peut comprendre le fait qu'une neshama, quand elle est en bas, elle peut être à un niveau très bas. C'est-à-dire, on peut être même à la quatrième phase, on peut être tout en bas. Mais que quand on va monter au Gan Eden, on pourra monter sans fin. On comprend pas. Si tu me dis que j'étais limité à la quatrième phase, donc je peux pas dépasser, tu viens de m'expliquer que tout était cadré, tout était carré. On te dit non. Qu'est-ce qui est cadré? C'est uniquement la neshama. Mais l'impact de la Torah et des mitzvot que la neshama a fait, lui, n'est pas limité par le temps, par l'espace. Lui, c'est la flèche, elle monte sans fin. Elle s'arrête jamais. Jusqu'à présent, on a parlé. Monsieur David, tu es toujours avec nous?
Oui.
Ouais. Jusqu'à présent, parce qu'il a révisé, Baruch HaShem. Voilà, on t'a fait une dédicace dans l'enregistrement.
Ah oui. C'est vrai qu'on a enregistré.
Ve'olam ha'atzilut. Donc jusqu'à présent, on a parlé que de trois mondes. On a parlé du monde de Asiya, donc qui est le monde de l'action, le monde dans lequel on se trouve. Le monde de Bria et le monde de Yetzira. Le monde de Bria et le monde de Yetzira, on l'a dit, ça veut dire que c'est le niveau qu'on atteint en faisant les mitzvot, avec la kavana analysée ou la kavana instinctive. Intuitive, instinctive, très bien. Il y a un monde qu'on n'a pas encore parlé, c'est le monde de Atzilut. Alors, c'est quoi le monde de Atzilut? Atzilut, d'accord? Atzilut en hébreu, ça vient du mot de Etzel. Alors, justement, Atzilut en hébreu, ça veut dire deux choses. Premièrement, ça vient du mot Etzel, ça veut dire proche. Ça veut dire c'est le niveau qui est le plus proche de Dieu. Deuxièmement, Atzilut, comme tu as bien traduit, ça se traduit aussi par émanation. Quand Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit que tu vas choisir 70 anciens, il lui a dit « Ve'atzalti minaruach ». Je vais émaner de l'esprit qui se trouve sur toi, je vais émaner vers ces 70 personnes. Donc « Atzilut » en hébreu, ça veut dire « proche » et ça veut dire aussi « émanation ».
Irradiation.
Comment tu dis ?
Irradiation.
Irradiation ? Radiation ?
Irradiation,
d'accord. Ouais. Donc « Ve'olam Atzilut ». Le monde d'Atzilut qu'on n'a pas encore parlé. Parce qu'on qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant ? On a dit que les plus grandes sadikim, a priori, ils arrivent jusqu'à où, M. David ?
Bria.
Personne n'arrive à Atzilut. Atzilut, c'est le top niveau. Voilà, Matzilut Cheulemala, Matsechel, Vasaga, Vavanel Sechel Nivra. On a un quatrième monde qui est le quatrième. Alors pourquoi on explique tout ça, vous allez voir. le quatrième monde d'Atsilut qui est plus haut que la compréhension. D'accord. Le Rav Sendak donne un exemple pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est plus fort que la compréhension. C'est un exemple très simple. Il dit, c'est comme si vous pouvez avoir, d'accord, on peut vous amener une lampe. On va dire, voilà, la lampe, il y a une lampe avec une lumière très forte. Et on va vous dire le soleil. Le soleil, voilà, il y a une lumière très très forte, tu ne peux pas regarder le soleil. Il y a certains rayons que si on regarde le soleil, Dieu préserve, on peut s'aveugler. Bon, disons. Mais, quoi qu'il en soit, tu ne peux pas dire que je n'ai pas de rapport avec cette lumière. La lumière est trop forte pour moi, certes. Mais je la vois à la lumière. Je vois la lumière, sauf que c'est trop fort pour moi, donc je ne peux pas la voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le concept du monde d'Atsilut quand on nous dit qu'on ne peut même pas comprendre? Il donne un exemple ici, il dit c'est comme des rayons. Aujourd'hui, il y a certains rayons qu'on peut faire que l'œil ne voit pas. Des rayons X, des choses comme ça, que l'œil ne voit pas. D'accord? Les rayons infrarouges que l'œil ne voit pas. C'est-à-dire, c'est pas que la lumière est trop forte et que... Parce que bon, la lumière est trop forte, l'œil, quelque part, il peut finir par s'habituer. D'accord? Je sais pas si vous... Quand on rentre, même s'il y a une lumière très forte, on peut finir quelque part par s'habituer. Peut-être. Mais quand c'est des rayons, peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Quoi qu'il en soit, ça veut dire, c'est une question de quantité, c'est pas une question de qualité. Mais quand il s'agit d'un rayon infrarouge, par exemple, il est même pas perceptible, c'est pas la quantité. C'est que j'ai aucun rapport avec ça, mon œil ne peut pas le voir. D'accord. On n'est pas sur la même longueur d'onde.
Exactement.
On peut dire ça, la longueur d'onde, il faut dire ça pour les... pour ce qu'on entend.
Non.
J'ai entendu qu'il y a une fréquence qu'à partir de 26 ans, on n'entend plus.
Les infrasons.
C'est pareil pour les ondes.
C'est pour le son, les ondes.
Mais la longueur d'onde, c'est valable pour la lumière aussi.
J'ai entendu qu'il y a une fréquence qu'à partir de 26 ans, on n'entend plus. Vous savez, comme vous avez une fréquence, une certaine fréquence qu'avant 26 ans, tu entends, et après 26 ans, on n'entend plus.
Énergie.
Et il y a... Voilà, exactement. Alors, ce que j'ai entendu, c'est qu'en Angleterre, je sais pas où on en parle, en tout cas, je sais pas s'il y a ils sont en France aussi, en Angleterre, ils ont mis dans certains immeubles, ils ont mis des repousses voyous, parce que les voyous, en général, ils ont moins de 26 ans. Donc, ils ont mis des émetteurs qui émettent un son comme ça, un son strident, hein, que celui qui a moins de 26 ans, ça lui casse les oreilles. Et comme ça, grâce à ça, ce qu'ils ont... Bon, il faut qu'on ait l'immeuble avec des vieux aussi. Hein.
C'est ça,
je veux dire. Du style, les invités, ils viennent, ils la mettent.
Il y a son gosse.
Bon. Alors, donc on va retenir... le monde de Atsilut, c'est comme les rayons infrarouges. Ça veut dire, c'est même... on n'est même pas capable. C'est pas qu'on veut dire que c'est incompréhensible. C'est que c'est... On peut même pas dire que ça rentre dans un concept de compréhension. On n'est pas adapté, on n'est pas conçu pour. C'est aucun rapport. Vous comprenez? Parce que des fois, on peut venir à un cours et de dire « j'ai pas compris », par exemple. Mais on a compris qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire « j'ai compris qu'il a dit des choses, mais c'était trop compliqué pour moi. Mais j'ai compris que j'ai pas compris. » Et là, on dit qu'il y a c'est un niveau encore plus fort que ça. Et même pas tu comprends que tu as pas compris. Il y a un coca frais au congèle.
C'est un autre niveau.
Et ça, c'est le monde de Atsilut. Le monde de Atsilut, c'est pas la même longueur d'onde. Qui rochmato vinato vedato shelen savaruchu, mais yuchadot sham betachlit eichud beichud atzum venifla, beyeter sed, beyeter az, le enket mi boalam abria. Là-bas, hein, dans le monde de Atsilut, qui est la première phase de la création du monde, donc Atsilut est égal à émanation et est égal à proche, celui qui est le plus proche de Dieu avant qu'il a commencé à se contracter. Je vous en ai expliqué il y a quelques mois, le concept du timtsum, que Dieu s'est contracté. Donc l'Atsilut est début, quand il commence à se contracter. À ce moment-là, exactement, bien vu. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu est uni. Ça veut dire qu'on peut pratiquement pas voir le matériel qui a été créé. Nous, dès qu'on est arrivé en bas, c'est le contraire. Le matériel, on le voit, et le spirituel, on a du mal à le voir. Ben, imaginez-vous qu'en haut, c'est le contraire. Hein, en bas, quand je vous dis qu'il y a une table en face de moi, je la vois la table. Ben, donc, tu me dis que dans cette table, il y a une étincelle de Kdusha, ben, il faut que tu me le prouves, il faut que tu me le montres. On va jamais arriver à le montrer, parce que le matériel est visible, le spirituel est invisible. Imaginez-vous que dans Atsilut, c'est pile le contraire.
C'est l'antimatière.
Le spirituel est là très très fort, et le matériel, il faut le chercher, quand en vérité, on est en train de commencer à créer le spirituel. C'est-à-dire, c'est complètement autre chose, c'est aucun rapport. Et ça, même les tzadikim n'arrivent pas là-bas. Sauf les grands tzadikim.
Qui peuvent comprendre.
Attention, mais on va définir qu'est-ce que ça veut dire quand on parle du grand tzadik. Donc dans les mots. Kisham, Yardulaï, Reprinatim, Sum Kedeshi, Yuchlou, Sichlim, Nivraim, Lekabel, Prinat, Mehem, Chabad, Leidait, Hashem, Ulavin, Ulasi, Geza, Sagabar, Savamchou, Kifikor, Sichlim, Anivraim, Shem, Balekou, Vetachlit. Dès qu'on commence à descendre au monde de Bria, au monde de Yetira, donc là, plus on va descendre, et plus le matériel va prendre la place. Pourquoi le matériel va prendre la place? le matériel va prendre la place, parce que si le matériel ne prend pas de place, alors automatiquement l'homme n'existera pas. Pour que l'homme puisse avoir un libre arbitre et qu'on peut avoir un jeu qui pense quelque chose, il faut que j'oublie quelque, enfin, il faut que j'oublie en d'autres termes, c'est-à-dire, il faut pas que je vois Dieu en face de moi. Il faut que j'oublie le spirituel, parce que si le spirituel, imaginez-vous, si on a Dieu en face de nous, on sent qu'on a Dieu en face de nous. Jamais on aurait de libre arbitre, jamais on voudrait fauter. On n'a pas envie de fauter. Donc Dieu a donc petit à petit, Dieu va rajouter le matériel tout en enlevant le spirituel. Donc Bria, c'est plus du spirituel que le matériel, mais on voit déjà le matériel. Alors que dans Atzilut, on voit pratiquement pas le matériel. Velo yubegedan Ibrahim Klal. Parce que si, dans le monde de Bria, Kadosh Baruch Hu est déjà obligé d'amener une certaine définition de matériel. Parce que s'il n'y a que... Oui, il a raison.
C'est pas aussi évident que ça.
Non, il a raison, c'est plus spirituel que matériel. Mais pas autant spirituel que Atzilut. Il y a quatre phases.
D'accord, mais on a du mal à percevoir que Bria, là où finalement on se situe...
Nous, on n'est pas à Bria. Nous, on n'est pas à Bria.
Sauf Rosh Kodesh.
Shabbat, Rosh Kodesh. C'est notre Neshama qui monte là-bas. Attention, notre Neshama, notre corps reste ici. Neshama. Donc, Machen Ken Batilut, Einam, non, pardon. Rakar Zero Linkoram Vishersham, Chuprinat et Lokut Mamash. Donc, Dieu est obligé de faire ce concept-là du Tintum, de la contraction, de faire ce concept que plus on descend et plus il y aura de matériel et moins il y aura de spirituel. Pourquoi? Parce que sinon, par défaut, on retourne à sa source. C'est comme la lumière de la bougie. On dit qu'en vérité, notre Neshama, c'est comme la bougie. La bougie que vous avez remarqué dans la bougie, dès qu'elle n'a plus de mèche, on a vu dans le chapitre 19, dès qu'elle n'a plus de mèche pour l'arrêter, pour l'attraper, la flamme s'en va. Notre Neshama, c'est la même chose. En vérité, notre Neshama, elle a envie de monter en haut. Donc il faut constamment qu'il y ait du matériel. Le matériel, c'est la seule chose qui la tient en bas. Pour expliquer ce concept-là, qu'il faut constamment du matériel pour rester en bas, on a vu chez beaucoup de tzadikim que dès qu'ils arrivaient à certains moments de la tfila, par exemple, dans lequel ils sentaient qu'ils étaient en train d'atteindre un niveau d'émanation trop fort, quand ils étaient un niveau d'exaltation trop fort, ils s'approchaient trop fort d'Akadosh Baruch Hu, on a vu comment les tzadikim demandaient à ce qu'on leur amène un objet matériel. Il y a des tzadikim qui demandaient à attraper une serviette. Il y a des tzadikim qui demandaient, ils s'arrêtent au milieu de la tfila, bon, quand ils pouvaient, pour manger quelque chose, pour boire quelque chose. Faire quelque chose de matériel. Et ça, on a des histoires comme ça avec des dizaines de tzadikim. Pourquoi? Exactement pour la raison qu'on vient d'expliquer ici. Parce que la neshama, si on la laisse monter dans le spirituel écrase le matériel. Et après, c'est fini, la neshama s'en va. Le matériel s'en va, la neshama s'en va. La neshama remonte au ciel. C'est pour ça que quand le tzadik sent... Quand le tzadik sent que sa neshama risque de partir, tac, il s'accroche à du matériel.
Que la neshama, elle a un ordre d'Hachem à la base.
Sûr.
Ça serait fort de dire, si on la laisse partir, elle va partir.
C'est ce qui s'est passé avec Nadav et Aviou.
Elle a un ordre d'Hachem.
Nadav et Aviou. Pourquoi? Comment c'est possible que Nadav et Aviou, d'un côté, on nous dit qu'ils ont fait une faute, et d'un autre côté, qu'est-ce qu'il a dit Moshe à Aaron? Il lui a dit Bikrova et Kadesh. Il a dit que Dieu, il a dit qu'il est sanctifié par eux. Et que il lui a dit, ils sont plus grands que toi et moi ensemble. Comment c'est possible? Ils ont fait une avéras, c'est Tzadikim. On a du mal à comprendre. Avec ce que je vais expliquer, on comprend. C'est que Nadav et Aviou, si tu veux, ont fait l'erreur. Parce qu'il n'y avait personne avant eux qui a fait l'erreur, donc ils ne savaient pas. Donc ils sont montés spirituels. Ils n'ont pas compris qu'à un certain moment, il faut stopper le spirituel. Il faut arrêter. Parce que si tu continues, la Neshama va partir. C'est obligatoire. La Neshama va monter en haut. Donc, si Nadav et Aviou, on ne leur reproche pas tellement, on ne dit pas que c'est des Rechaïm, c'est parce qu'eux, ils ne savaient pas. C'est eux qui ont été notre exemple. D'ailleurs, on a vu qu'à la suite de Nadav et Aviou, Dieu a amené de nouvelles lois. Ça veut dire qu'il devait amener certaines choses dans le monde.
Ce que je veux dire, c'est comment c'est possible que Dieu donne un ordre quelque part, et parce que nous, on s'est élevé, qu'on a élevé la Neshama. Alors la Neshama dit, bon, elle ne reviendra plus, etc.
C'est un impact direct de ce qu'on fait. Ça veut dire que si tu montes, plus on monte et moins il y a du matériel. Plus on devient plus le tzadik monte dans le spirituel.
Mais dans tous les cas, et plus c'est à l'endroit où on est. Donc par rapport au fait que elle a un ordre d'Hachem, sinon elle serait jamais descendue. Pourquoi elle serait descendue? Pourquoi est-ce qu'elle était beaucoup mieux là-haut? Il y a beaucoup plus de kedusha là-haut.
Raison.
Comment elle a fait? C'est quoi la force qui l'a fait descendre?
Je sais pas si je vais dire Baruch Hachem ou malheureusement, mais quoi qu'il en soit, Baruch Hachem, on n'a pas ce dilemme là. Nous, de toutes les façons, ni on monte en haut, ni.
Le tzadik
qui monte très très haut. Lui a la possibilité de faire que sa neshama quitte son corps quand il veut. Okay. Ça veut dire qu'en vérité, entre guillemets, il peut mourir quand il veut.
C'est lui qui décide.
Oui. C'est très fort. C'est pour ça qu'on a vu des tzadikim, par exemple, qui, quelque part, ils décident quand ils partent. C'est très très fort ça, parce que le tzaddik, à un certain moment, Dieu lui envoie le signal, il lui dit bon maintenant tu peux laisser sa neshama partir, et le tzaddik il fait monter sa neshama, et c'est automatique, c'est pas que Dieu vient lui enlever sa neshama. Bon, ça c'est un autre sujet que je ne veux pas rentrer dedans. Je veux seulement expliquer, d'accord ? Je veux seulement expliquer que quoi ? Que à partir du monde de Bria, la deuxième phase, c'est là que Dieu est obligé d'amener du matériel. Pourquoi ? Parce que si on en reste à la quantité de spirituel qu'il y avait dans le monde de Hatzilut, on ne peut pas créer de monde, impossible. On ne peut pas créer de monde, personne ne veut rester en bas. Tout le monde veut monter en haut, et c'est pas bon. Machen ken ba Hatzilut, et il a mépris na Tzimtzum, qui im, iefchar les sikhlim nivraim, les kabel mehem. La chen et marcha sadil on, fils Hashem klal. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar ? Le Zohar dit dans une phrase très connue qu'on dit dans le Patach Eliyahu. Patach Eliyahu, donc on lit par exemple, qui est dans le Sidour, Patach Eliyahu, donc on le lit avant la tefila du matin. Qu'est-ce qu'on lit là-bas dans le Patach Eliyahu ? Dans le Patach Eliyahu, il dit que Akadosh Baruch Hu, il lui dit « Let marshava tfisa beklal ». Il n'y a aucune pensée qui peut attraper Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire « aucune pensée qui peut attraper Dieu » ? C'est exactement le concept de Hatzilut que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est pas que la lumière est trop forte. C'est que les rayons n'ont aucun rapport avec nous. C'est des rayons qui n'ont aucun rapport avec nous. C'est-à-dire qu'on peut même pas essayer, on peut même pas essayer de comprendre. C'est pour ça que même les tzadikim, ils sont bloqués au monde de Bria. Parce que le tzadik est une créature. Il vit dans un monde ici. Et pour pouvoir vivre dans ce monde, il est obligé d'avoir un minimum de matériel. Or, dans Hatzilut, il n'y a pas assez de matériel. Puisqu'il n'y a pas assez de matériel, s'il serait dans Hatzilut, il n'aurait pas tenu. Il faut qu'il soit au minimum à Bria. Très bien. Là, ce qu'il va dire, c'est qu'il y a une exception.
Il y a même une part de matériel qu'il n'y a pas assez.
Il y a très peu, pratiquement pas. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, de la même manière que moi, si je dis que dans la table ici, il y a du spirituel, tu ne le vois pas, il faut vraiment le chercher. Et peut-être que tu ne trouveras jamais.
Il y a de la table dans le spirituel.
De l'autre côté, c'est la même chose. C'est qu'il y a que du spirituel et il faut chercher le matériel. Et peut-être qu'on ne trouvera jamais. Mais en vérité, c'est la source du matériel. Chaïm, monsieur David, je ne pas encore dit.
L'achène.
Ou m'adore les tzadikim agdolim, chez Avodatam, il est mal à mal à finu prina trilouchim. Maintenant, on va expliquer bien qu'on expliquait jusqu'à présent que il y avait la mitzvah qu'on faisait sans aucune kavana qui était dans le monde de Asiya, tout en bas. La mitzvah avec la kavana instinctive qui était dans le monde de... Monsieur David ? Kavana instinctive, comme les animaux, comme les anges, qui est dans le monde de Yetzira. La kavana de ceux qui font avec la kavana analysée, qui est dans le monde de Bria. On a dit, a priori, il n'y a personne qui est Hatzilut. Il n'y a qu'une catégorie de tzadikim, les grands tzadikim, qui rentrent dans la catégorie d'Hatzilut. Alors, c'est quoi ces grands tzadikim ? De qui on parle ? Enfin, de qui on parle ? De quoi on parle, plutôt ? La reine ou Mador, les tzadikim Magdolim, Shavodatam, il est mal à mal à Afinu Pumiprina Trilu Chimu, Anim Shachov, Inabina Veda, Bigdolote de Bar. Dit comme ça. Il dit que, là, on va parler des tzadikim très spéciaux. C'est les tzadikim qui vivent dans ce monde-ci sans vraiment vivre. On va donner des exemples. Des exemples. Alors, comment sholam atzilut ou les malam iprinat bina vedat les sechel nivra. De la même manière que qu'on vient d'expliquer que le monde d'atzilut est beaucoup plus haut que le concept de la réflexion. C'est comme l'exemple qu'on a donné avec les rayons infrarouges. C'est pas comparable à la lumière. C'est pas moins fort, plus fort. Il n'y a pas, c'est infrarouge. Les tzadikim et les tzadikim aussi, c'est la même chose. Ils sont pas du tout dans ce concept de matériel et spirituel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il explique. Et là, avodatam, aïta biprinat merkava mamash, l'ensov baruhu, velibatel elav imtiut ulikalel beoro idbarer, hem vechol asherlem. On a des tzadikim, d'accord? Notamment, quand je parle de tzadikim, je parle notamment de tzadikim comme Avraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu. Que le Midrash dit que cet tzadikim-là était un char pour Akadosh Baruch Hu. C'est une expression qu'on a déjà ramenée plusieurs fois dans le Tanya. On a expliqué c'est quoi le concept du char. Quoi le concept du char? Le concept du char, c'est que la même manière que, aujourd'hui on aurait dit une voiture, d'accord, la même manière que le volant d'une voiture, c'est pas comme un animal. D'accord, parce que l'animal, c'est possible que quand l'animal est en train de le diriger vers une certaine direction, il n'a pas envie d'aller. D'accord, il ne veut pas aller. Seulement, comme tu vas le forcer, il va aller. Mais le volant de la voiture, c'est pas la même chose. Le volant de la voiture, il n'y a même pas de libre arbitre. C'est-à-dire, il n'y a même pas de... Alors, j'ai pas envie de dire libre arbitre, mais il n'y a même pas de volonté. Il sait pas qu'il veut aller, il veut pas aller. Tu tournes, il tourne, c'est tout. Tu tournes la roue tourne.
Il est asservi.
D'accord ? Entièrement. Merkava, ça veut dire c'est un char. Et on dit que, le Midrash dit, que Avraham, Yitzhak et Yaakov étaient comme un char pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi qu'ils étaient comme un char pour Akadosh Baruch Hu ? Ça veut dire comme ça. comme un char pour Akadosh Baruch Hu, ça veut dire qu'ils sont devenus un outil d'Akadosh Baruch Hu. Comment il dit le Zohar? Le Zohar, il dit comme ça. Pour vous montrer comment c'est très fort. On connaît tous l'histoire d'Abraham Avinu, d'accord, de l'épreuve d'Abraham Avinu, l'épreuve ultime qui était qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, il faut que tu fasses la Shrita à ton fils. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Abraham, il lève sa main avec le couteau pour tuer Yitzhak. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il lui dit Dieu? Je lui dis stop. Il lui dit, je sais que tu crains Dieu, mais al tishlach yadecha lanar v'altas baumama. D'accord? Il lui dit, n'envoie pas ta main vers le jeune homme et ne lui fais rien. Qu'est-ce qu'il dit après? Ki ata yadati ki ore elokim ata. Il dit, parce que maintenant je sais que tu crains Dieu. Écoutez bien ce que explique le Zohar. Le Zohar pose la question, il dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Abraham Avinu au moment où Dieu lui a dit, donc il avait le couteau en l'air, et Dieu lui a dit, ne tue pas ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que Abraham Avinu était dégoûté? Est-ce que Abraham Avinu, une fraction de seconde, voulait le faire quand même, mais il a dit, bon, comme Dieu ne veut pas, alors je m'arrête? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette tête? Très difficile à comprendre.
On peut dire qu'il n'y a rien pour lui, il n'y a rien.
Imaginez-vous qu'on vous fait travailler pendant plusieurs années, on vous dit, voilà, t'as un but. Et après, dès qu'on arrive pile juste avant le but, on vous dit, tac, stop! C'est pas ça ce qu'il faut faire. Il faut faire le contraire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Frustration.
Et peut-être même que, quelque part, on essayera de continuer à faire la chose, mais bon, après on va s'arrêter. Écoutez bien ce que dit le Zohar sur Avraham Avinu. Le Zohar dit Avraham Avinu, ainsi que tous les autres patriarches, tellement son corps était un char pour Akadosh Baruch Hu, que dès que Dieu a dit à Avraham Avinu, il lui a dit, ne tue pas ton fils, sa main ne pouvait plus descendre. C'est-à-dire, même s'il voulait, il peut pas. Son corps était entièrement asservi à Dieu. Sa main ne voulait plus descendre, sa main ne peut plus descendre. C'est un tzaddik qui arrive à un niveau tellement fort que ni à matériel ni à spirituel. Son corps devient un outil pour Akadosh Baruch
Hu. Même sa pensée, parce qu'on peut tout dire, ok, il ne peut plus le faire. C'est un mot qui a bloqué.
C'est tout. Mais la pensée, c'est pas sûr.
Alors ça veut dire quoi?
Il aurait pu dire,
ça veut dire que le tzaddik, ça veut dire qu'un tzaddik, et ça c'est les grands tzaddikim, les tzaddikim qui arrivent à ce niveau-là, on dit que eux peut-être, ils se rendent pas compte dans toutes les choses qu'ils sont en train de faire, comment c'est les outils d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme le volant. Le volant ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. Mais chaque geste qu'un tzaddik fait, il y a de la kdoucha dedans. Chaque geste qu'un tzaddik fait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même si le tzaddik, par exemple, je sais pas moi, c'est pour vous donner un exemple, le tzaddik est en train de marcher. Il n'y a rien, c'est pas une mitzvah marcher. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a rien fait. Eh ben non. Quand c'est un tzaddik de l'envergure d'Abraham Avinu, quand c'est un tzaddik qui est grand comme ça, qui est tzaddik comme Merkava, tout ce qu'il fait, c'est un outil d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être que lui ne se rend pas compte. Mais c'est un tzaddik qui est arrivé à un niveau tellement haut qu'il n'est plus limité par le concept de matériel et spirituel. À quel moment il y a un risque quand on est dans le monde d'Atsilut? On a dit pourquoi c'est risqué d'être dans le monde d'Atsilut? Parce que dans le monde d'Atsilut, il y a trop de spirituel et pas assez de matériel. Donc automatiquement, si on est au monde d'Atsilut, la Neshama veut s'envoler. Le tzaddik ici arrive à un niveau tellement fort que c'est devenu l'outil d'Akadosh Baruch Hu. Donc, il n'y a plus ces problèmes-là que je risque de vouloir monter. Il n'y a plus. C'est devenu un outil.
Sans compter d'accord que les chameaux des tzadikim, elles sont contentes de résider dans le tzadik. Elles ne veulent pas partir.
Ouais. Alors là, ce qu'il dit ici, Alder Chamou, je vois ce que tu veux dire.
C'est limite mieux là-haut que mieux chez le tzadik que là-haut.
Non, c'est-à-dire que le tzadik, tellement c'est devenu un outil d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il ne réfléchit même pas.
Ou c'est pareil.
Il ne réfléchit même pas.
C'est devenu comme un ange. Alors.
Exactement. C'est plus qu'un ange.
Plus qu'un ange.
C'est plus qu'un ange.
Un ange, il n'a pas le libre arbitre.
Parce que lui, il a le libre arbitre.
Il a fait le choix.
S'il veut, il peut. Il a décidé de devenir un outil d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Comment on dit? On dit que à ce moment-là, le tzaddik, en d'autres termes, tu as raison, il devient comme un animal. Sauf que c'est très fort parce que c'est lui qui a décidé de devenir comme un animal. Très très fort. On n'arrive même pas à comprendre parce que nous, il y a un certain moment dans lequel je dis à Dieu, bon, j'ai décidé, je fais ce que tu demandes. C'est possible que toute ma vie, j'ai décidé de faire ce qu'il demande. Possible. D'accord? Le tzaddik qui arrive à ce niveau-là, c'est plus, même plus qu'il décide. Il décide plus. Il a rendu son corps un outil pour Akadosh Baruch Hu. Il a dit, voilà, Dieu, je suis ton outil. Maintenant, tu fais ce que tu veux. Très, 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 très fort comme niveau. Donc, al derer she'amru, ainsi qu'on a dit, comme j'ai c'est écrit dans le Midrash Rabbah, Avot en hen amerkava. Que les patriarches sont une merkava, sont un char pour Akadosh Baruch Hu. Vaïnou les fiches et colliers même Aïtazot Avodatam, parce que toute leur vie, Aïtazot Avodatam, c'était ça, leur travail. Bon, c'était bien beau ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a parlé de Tzadikim, d'accord? Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a jusqu'à maintenant. priori, ça ne nous concerne pas du tout, tout ça.
Par rapport au Rosh Chodesh, avec Shabbat...
Donc, un résumé de qu'on a jusqu'à maintenant, on a expliqué deux choses. On a expliqué qu'il y avait une différence entre l'aneshama et l'impact des flèches qu'on envoie avec la Torah et les mitzvot. On a dit que l'aneshama en elle-même, il y avait quatre niveaux. L'aneshama, quand elle fait aucune mitzvah, dans quel monde elle se trouve? Tout en bas, quatrième phase. Si c'est avec une kavana instinctive, deuxième phase. Enfin, troisième phase, je veux dire. Troisième phase, si on vient d'en haut. Si c'est avec une kavana analysée, on a la deuxième phase. Et normalement, personne ne dépasse ça. Sauf, sauf les grands tzadikim. Eux, les grands tzadikim, eux peuvent arriver au monde de, Hatzilut. D'accord? Alors ça, c'est, excuse-moi, je vais juste finir. Ça, c'est le concept de la neshama. La neshamot, on a dit qu'il y a les neshamot peuvent se trouver dans quatre niveaux différents. Alors que les flèches qu'on envoie, la Torah et Mitzvot qu'on fait, eux, on a dit, ils peuvent aller même encore plus haut que Hatzilut. Ils vont sans fin. Et c'est ce qui explique pourquoi quand on est au Gan Eden, on peut profiter sans fin d'une mitzvah qu'on a fait. Parce que ça s'arrête jamais. L'impact ne s'arrête jamais. C'est illimité, c'est sans fin. En quantité et en qualité. Julien, ta question.
Est-ce que ces quatre mondes sont à mettre en parallèle avec les cinq niveaux de la...
De la Neshama?
Oui,
oui, bien sûr. Naturellement.
Bien sûr. Naturellement.
100%.
Nefesh, War, Neshama.
Pourquoi?
Ah, c'est la même chose. Oui, il a raison, non, c'est un rapport direct.
Juste un peu plus de précision.
Nefesh, Roach, Neshama. D'accord. Nefesh, Roach, Neshama, c'est les trois niveaux auxquels on fait appel en général. Donc c'est où Nefesh, c'est le niveau auquel on fait appel quand on fait une mitzvah sans kavana. Roach, c'est si c'est avec une kavana instinctive. Neshama, c'est si on fait une kavana analysée. Ensuite, Raya, c'est le niveau du monde de Hatzilut. Et Yehida, c'est ce qui est encore plus haut que le monde d'Hatzilut. C'est le niveau dans lequel il n'y a pas du tout de matériel. Et ce niveau-là, on l'atteint le jour de Yom Kippour pendant la Neila. La Neila de Yom Kippour, notre Neshama à ce moment-là, elle est à un niveau dans lequel il n'y a que du spirituel, pas de matériel. Seul moment dans l'année où elle atteint, c'est le moment de Neila de Yom Kippour.
Mais elle est passée par...
On voit les quoi?
On voit les dons qui sont faits.
Mais est-ce qu'elle est passée par les différentes étapes?
Non, direct. Neila, c'est direct en haut.
Ça veut dire qu'on n'est pas passé à...
Ça veut dire qu'à un certain moment, il n'y a plus de matériel, il n'y a que du spirituel.
Normalement, quand on fait la tzilut, on est à tzilut.
Donc, juste avec ce que je vais expliquer, vous comprenez qu'en vérité, on n'est pas... Quand je parle de... Même si je le monte avec ma main, je le monte géographiquement, comment on monte, mais d'après le concept qu'on a expliqué, que qu'est-ce qui fait qu'un monde est à tzilut, bria et tira, skia, c'est le fait c'est le dosage de matériel et du spirituel, ça veut dire que c'est pas du tout géographique. C'est en nous. Ça peut être en moi. Dès que j'arrive à la Neila de Yom Kippour, à ce moment-là, l'aneshama, elle a zéro matériel, que du spirituel. Nous. C'est en moi. C'est en nous.
Donc,
à ce moment-là, c'est en nous.
Donc,
très très fort.
Il y a un moment, on arrive plus haut.
C'est sûr qu'il y a un moment.
Tu cherches à atteindre un autre monde.
Non. Ce moment, il dure très peu de temps.
Tu peux atteindre là, c'est quoi ça?
On le sent comment?
L'expression se dépasse.
On se sent?
On le sent comment?
Tout vient avec la préparation. Tu sais, comme j'ai entendu une fois un rat qui expliquait comme ça.
Je veux dire, à l'année là, c'est le point évident.
Si on serait venu, imagine-toi que maintenant... Potentiellement, on peut y arriver.
On sent qu'il y a quelque chose de spécial, non?
Attends. Imagine-toi qu'on aurait dit maintenant Neila demain soir 5h.
Allez.
Hein? Pas la même chose. Il faut une préparation. Et même avec la préparation qu'on a, ça dépend du cœur qu'on va mettre dans les slichot, ça dépend du cœur qu'on va mettre dans Rosh Hashanah, ça dépend de la kavana.
De toute façon, ça reste demain.
Mais l'effet est là.
Ils ont besoin de moins de préparation que nous d'ailleurs.
Cette année, j'ai pris beaucoup de préparation. Ah, Mish, Shoresh Tishmato, Katan Meachila, Vodatamazo. Donc là, on a expliqué avec ça, donc d'après ce que tu as expliqué, qui est au top du top, c'est qui est au top du top, c'est les grands tzadikim. Maintenant, nous qui sommes ni grands tzadikim, ni petits tzadikim, et que tout juste si on arrive à faire la kavana instinctive, c'est pas très encourageant tout ça. D'accord?
Alors. De temps en temps, tu fais bien des kavanot analysées.
Bon, disons, peut-être, allez, de temps en temps, j'arrive à faire une kavana analysée, peut-être. Mais bon, pourquoi tu me parles de la kavana du grand tzadik ici? Alors, il va en parler. Ah, Mish Shoresh Nishmato, celui que la racine de son âme, Katan Me'achil Avodat Amazo. Encore une fois, comme on a expliqué dans le chapitre 14, le chapitre 15, si je ne suis pas tzadik, si une personne standard n'est pas tzadik, c'est pas parce que il n'y arrive pas. C'est parce que sa neshama n'est pas compatible. Il y a des neshamot qui ne sont pas compatibles. Les 99% des neshamot, 99,9% des neshamot, ne sont pas compatibles avec le niveau d'un tzadik. Ça veut dire qu'elles ne sont pas faites pour avoir trop de spirituel et peu de matériel. Elles peuvent pas. Alors, donc ça, c'est la majorité des cas. La majorité des neshamot, on est vraiment dans cette catégorie. C'est ni grand tzadik, ni petit tzadik. On n'est pas conçu pour ça. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe avec nous maintenant? Ah, donc je reviens. Ah, Mishé Shoresh Nishmato Katan Machil Avodat Amazo. Si une personne, la racine de son âme, encore une fois, ça veut dire la conception, comment son âme est faite, 99,9% des Neshamot, Katan Nari Lavodat Amazo, il est trop petit, sa racine, ça veut dire n'a pas assez de force pour contenir ce service qui est à la perfection, comme on a expliqué, les grands sadikés. Moi, c'est ni grand sadiké, ni petit sadiké. Parce que ma Neshama n'est pas conçu pour ça. D'accord ? Là, on redescend, là. L'Ibatel Vilikalel Boroid Barer, Bavodato Bikiout. Rak Lipratim, écoute pas bien, M. David. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je n'arrive pas à être constamment ni à Tzilut, ni à Abria. Rak Lipratim Veikim. Seulement à certains moments. Ah ! C'est quoi ces certains moments ? Non. Rosh Chodesh, on a dit c'est Bria. C'est Bria. Là, on a dit qu'il y a certains moments dans lesquels on peut arriver à Atzilut. Chez où est Ratson? Non, Neila, c'est plus haut que Atzilut. C'est Atzilut. Ah, c'est Ensof. Oui, il s'appelle Ensof. Chez où est Ratson les Mala? Okmo bitfila de Shmoné Esri. Ah, c'est quoi cette histoire-là? Comme dans la tfila de Shmoné Esri, la Amida,
ah, voilà.
3 fois par jour, chez Iba Atzilut. La Amida se trouve dans le monde de Atzilut. Alors, je vais expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Quand? Oui, 4 fois aujourd'hui, exactement. Le concept de... Quel est le concept ici quand on parle de l'Amida qui a un rapport avec Atzilut? Ça, c'est expliqué dans un livre qui s'appelle Pri Etzraïm. Pri Etzraïm, donc c'est un livre qui nous vient c'est un livre qui nous vient du Harizal, qui a été écrit par Rabbi Chavital. Il explique comme ça. Là-bas, il ramène l'échelle de Yaakov. Vous vous rappelez l'échelle de Yaakov? Ils l'ont retrouvé récemment en Israël dans les recherches.
Oui,
t'as
pas...
Mais non, c'est un rêve.
Ah. Tu plonges en plus.
Je suis bon public, moi.
C'est pas vrai.
Je suis bien plongé, hein. En plus, je l'ai déjà fait.
Non, pas avec moi, non.
Bon. Et bien, quelque part, on peut la retrouver, cette échelle. On peut la retrouver.
Donc, elle existe, alors.
Elle existait. Alors, c'est quoi cette échelle? Cette échelle, d'accord, l'échelle de Yaakov, on explique que spirituellement, c'est une échelle qui a
4 niveaux.
C'est une échelle qui a 4 niveaux, 4 échelons. À quoi ça correspond à ces 4 échelons?
4 mondes.
Explique le Harizal, ces 4 échelons correspondent aux 4 mondes. Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et il explique comme ça le Harizal. Il dit qu'en vérité, ce concept de Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, nous on a l'impression que bon, c'est un truc, ça concerne les tzadikim, ça n'a aucun rapport avec nous. Il dit non. Chaque juif peut faire appel au monde de Atzilut 3 fois par jour, quand il fait sa mida. Pourquoi? Il explique comme ça. Il dit, quand on commence la tfila, toute la tfila jusqu'à Baruch Shamar, avec toute l'introduction jusqu'à Baruch Shamar, on est dans le monde de Asiya. Ensuite, quand on passe de Baruch Shamar jusqu'à Ishtabach, d'accord, jusqu'à Ishtabach, à ce moment-là, on est à quel niveau? On est au niveau de, qu'est-ce qu'on a? On est au niveau de Yetzira, M. David. Tu me suis, M. David? Yetzira, c'était le monde de qui?
Je vais revoir.
Des anges.
On est parti vite, là?
Non, c'est bon.
D'accord. Yetzira, c'était le monde des anges. D'accord? Le monde instinctif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, entre Baruch Shamar et Ishtabach, on parle principalement de la nature, d'accord? On parle principalement de la nature, des animaux, etc. Ensuite, continue le Harizal. Il dit, entre Ishtabach, donc après Ishtabach, on commence les brachot qui vont précéder le schéma, plus le schéma, on est dans le monde de Yetzira.
Non.
Si?
Bria.
Bria. D'accord, le monde de Bria. On parle des anges, exactement. Bien
exactement,
vu.
C'est
non, il a raison.
Les fameux anges.
Voilà.
Attends, c'est les
bien
anges
vu. Qui sont dans on le parle des de fameux Bria. Anges qui sont dans le domaine de Bria.
Non, voilà. Mais c'est bizarre. D'accord. On appelle ça Bria, alors qu'on appelle ça Yotia.
Ah, 2 secondes. Il dit comme ça. Il dit qu'à ce moment-là, on est dans le monde de Bria. Ensuite, l'Amida, à quel monde on arrive? L'Amida, on arrive dans le monde de Atzilut. Il explique qu'on retrouve ça, d'ailleurs, dans l'Amida, dans le fait que dans l'Amida, on se prosterne. Combien de fois on se prosterne dans l'Amida? Combien de fois on se prosterne dans l'Amida?
1, 2, 3, 4,
au début.
Ah, mais ça dépend
des. Il n'y a pas d'avis, il y a tout le monde d'accord. 4 fois on se prosterne dans l'Amida. 4 fois. On se prosterne au début de l'Amida.
2 dans la première.
Au début de l'Amida. Ensuite à Magan Avraham. Ensuite à Modim. D'accord.
Et juste avant
l'Amida. Et l'Ode. Ça fait 4 fois. D'accord. Il explique le Harizal pourquoi tout d'un coup on se prosterne. C'est quoi le concept de se prosterner? Il explique que le concept de se prosterner, c'est parce que la Neshama, à ce moment-là, arrive au monde de Atzilut. Et le fait que se prosterne, c'est pas encore se redescendre, c'est une manière de dire qu'à ce moment-là, le matériel se prosterne. Et qu'à ce moment-là, le spirituel est très fort. Donc ça, il explique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit qu'en vérité, un juif, pourtant, on ressent pas tout ça. Est-ce que quand on fait la tfila, on ressent tout ça? On ressent pas. Ça, on verra après. Mais c'est ce qui se passe. Quand on fait la tfila, d'accord, il y a un crescendo, ça monte, ça avance, d'accord. Et jusqu'à qu'on arrive à la, à l'Amida, l'Amida c'est le monde d'Atsilut. Ensuite,
on redescend.
Comment on redescend? D'abord on va faire Tachanoun. Qu'est-ce qu'on fait à Tachanoun? Tachanoun c'est une introduction. C'est-à-dire déjà on va commencer à redescendre. Tachanoun, qu'est-ce qu'on va faire à un moment dans Tachanoun? On va baisser la tête. Mais là, à ce moment-là, c'est pas baisser la tête pour annuler le matériel. C'est baisser la tête pour montrer qu'il faut redescendre. Ensuite, il explique Ashré ou Valétian ensemble. Ashré ou Valétian ensemble, c'est on descend Yitzhira. Du monde d'Atsilut au monde de Yitzhira. Ensuite, on a Tefila et David. D'accord? Tefila et David. Ensuite, on a Kavé. Et ensuite, on a Alenu. Et chaque fois, on descend. Le Alenu, c'est pour ça que le Alenu, c'est une fila très importante. Pourquoi le Alenu, c'est une fila très importante? Parce que c'est là qu'on arrive au monde de Assiya. C'est là qu'on revient au point où on était à la case départ.
Pourquoi Yom Kippour mettre Alenu dans la Amida?
Pour montrer que c'est une fila très importante. Oui, tu as raison. C'est pour montrer que... On n'a pas dit que Alenu, c'est un rapport avec Assiya. On a dit que dans la manière comment le Shacharit est fait, d'accord, il y a un ordre. Il y a un ordre. L'ordre est très important. C'est pour ça que le Alenu, c'est là auquel on arrive à la case départ. On a fait le tour. Ça, c'est comme dans un jeu. On a fait le tour. Et c'est là qu'on voit qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a fait.
C'est pour ça qu'il ne faut pas sauter.
C'est pour ça que... Oui, exactement. C'est pour ça, par exemple, qu'on dit que même si... Qu'est-ce que dit le Harizal? Le Harizal, il dit que même si, normalement, d'après la halakha, quand on vient en retard à la tefila, Dieu préserve, ça arrive jamais, ça nous arrive jamais. Mais si quand on arrive en retard à la tefila, normalement, il y a une halakha que si le tibour est déjà à Shema, qu'est-ce que je fais? Je fais Shema avec eux. Et le début de la tefila, ben, je ferai après, si j'ai le temps. D'accord? Si Dieu veut, je rattraperai après. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Le Harizal et Mekolo, ils disent non, ça marche pas comme ça. Ils disent tu peux pas. Il y a un ordre dans la tefila. Tu peux pas, il y a un ordre. Pour arriver au monde de Hatsilut, il faut d'abord passer par les phases d'avant. Pareil, tu peux pas redescendre n'importe comment. Il y a un ordre. D'accord? Alors, comment on fait maintenant dans les faits? Si on peut pas, on n'a pas le temps de faire toute la tefila. Alors sur ça, le Ben Ishraï a écrit sur ça, comment dans chaque phase de la tefila, quelle est la partie la plus importante? Par exemple, dans la deuxième phase de la tefila, le plus important, c'est le Ashré. Ashré, je vais dire. Ouais. Il explique comme ça les phrases clés qu'il y a dans la tefila. Les phrases clés qu'il y a dans la tefila qui vont créer ce monde-ci. Et c'est pour expliquer qu'on peut pas sauter n'importe comment. Même si, halakhiquement parlant, c'est permis. Mais quand on voit selon la Kabbalah, on voit que, même si halakhiquement parlant, c'est permis, mais on passe à côté de quelque chose de très important. On passe à côté de tout ce système de courbes qui montent et qui descendent. Alors,
pour la descente, on peut se lâcher en chute libre.
Oui,
c'est pour ça que je vais vite.
Alors, la fin de la tefila.
Les Ashrés, ils s'en vont tout de suite.
Ça vaut le coup de faire un cours pour comment on s'y prend. Et comme on n'est jamais en retard, on ne sait jamais dans le cas où.
Oui.
Il y avait un truc dans Rav Adi Yosef, il y avait un tableau comme ça. À quel moment tu arrives et où est-ce qu'il va se
prendre? Non, Rav Adi Yosef, il explique selon la halakha. Donc halakhiquement parlant, encore une fois, si je viens avec le tibour et le schéma...
La halakha, on les connaît pas.
Voilà, je te dis. La halakha, et si j'arrive à la synagogue avec le tibour et déjà au schéma, je fais schéma direct. D'accord. Je fais schéma. Schéma Amida. Mais, encore une fois, selon la Kabbalah, ça tout le monde le dit. Ben Ishraï, Ariza, tout le monde le dit. On peut pas sauter la tefila. Moi, par exemple, quand ça m'arrive, Dieu préserve, moi bon, ici, ça peut pas m'arriver, mais de venir, à part le dimanche, de venir en retard à la tefila... D'accord? Je fais toute cette fila avec les Ktoret, quitte à même rater le minyan. Enfin, je vais rater le minyan parce que j'aurais pu faire la mida avec le tibour. Parce que c'est très important, selon la Kabbalah, c'est très important de garder cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué? La mida, c'est quel monde? La mida, c'est le monde de Atsilut. Mobit filach monesresh ou batsilut. Ou bifrat bi ishtachava ot sheba. Shekol ishtachava bifrinat Atsilut. D'accord? Chaque fois qu'on se prosterne pendant la mida, c'est un niveau de Atsilut, comme ce que je viens d'expliquer. Ça montre le concept de Atsilut, que j'enlève le matériel pour montrer quelque chose de spirituel. Donc, moi, j'ai qu'à tout le prix Etsraïm et Kabbalat Shabbat, comme donc le dit le prix Etsraïm. Kihi, Inyan Bitul, Beoroid Barech, Liot Rashiv, Kame, Kelomamash. Que le concept de la Amida, c'est quoi? C'est l'annulation à Kadosh Baruch. C'est pour ça, d'accord? C'est pour ça, ça aussi, quelque chose qu'on voit chez les grands tzadikim. Vous savez que les grands tzadikim, on voit que quand ils font la Amida, ils bougent pas.
Il se balance pas.
Il se balance pas, non, il bouge pas. Le rabbi, par exemple, quand on le voit, pendant la mida, il bouge pas. Rien. Il bouge pas. Et ça, on le voit chez des grands tzadikim. Que pendant la mida, il bouge pas. Pourquoi il bouge pas? D'accord? C'est quoi pourquoi il bouge pas? Parce que normalement, le concept de Hatzilut, on a expliqué, c'est devenir un outil d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que j'oublie complètement mon matériel. On s'annule entièrement à Akadosh Baruch Hu. On s'annule entièrement. C'est pour ça que les grands tzadikim, ils expriment ça en ne bougeant pas, pour montrer que je m'annule entièrement. La seule chose que je fais, c'est que je dis les mots de la tefila parce que Dieu m'a demandé de les dire. Liot Rashiv Kamekelo Mamash, Azai Gamken, Ikar Gliut Nishmato Boalam Abriya, Rak le Frakim Bed Ratson, Taale Nishmato la Tilut, puis Prinat Meinovim, Kaedo Liadere. Alors qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, hein? Je finis M. David. D'accord? Je finis M. David. Qu'est-ce qu'il dit ici? Que même les Neshamot et Tzadikim, ça veut dire qu'en vérité, là, c'est quelque chose dans lequel c'est très fort. L'Amida, c'est très fort. Pourquoi l'Amida, c'est très fort? Parce que tout le monde monte au monde d'Atsilut. Que ce soit le Tzadik qui était à la deuxième phase, que ce soit moi qui ai la deuxième, ou qui soit à la première phase.
Tout le monde au même niveau.
Tout le monde, à ce moment-là, à l'Amida, tout le monde peut arriver en haut. Après, bien entendu, il y aura la différence, celui qui va s'en rendre compte, celui qui ne va pas s'en rendre compte.
La tradition d'avoir une kavana analysée.
Non. Ah non, c'est faux, là.
Non, c'est un moment propice. Dans le monde d'Atsilut, finalement, on n'est qu'un outil. Donc,
bon. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je vais juste conclure ce qu'on a expliqué. Et là, la semaine prochaine, ça va être très important. Parce que la semaine prochaine, on va conclure le chapitre 39. Et on va expliquer quelle différence il y a entre une mitzvah qui est faite avec Kavana et sans Kavana. Puisque de toutes les façons, tu me dis que quand je fais l'amida, je monte à Atzilut. Alors, qu'est-ce que ça change? Quelle différence, là? Et là, on va expliquer, on va rentrer dans un concept du Zohar, que le Zohar amène, qu'il explique que la Kavana, c'est comme des ailes. Donc, quelle valeur ajoutée, si on peut dire, ça amène la Kavana? Kavana analysée, Kavana instinctive. Ça, c'est la semaine prochaine. Là, maintenant, je vais juste conclure ce qu'on a expliqué aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qu'on a expliqué aujourd'hui? On a une vue générale sur les quatre mondes de Atzilut, Bria et Tirassia. On a expliqué qu'une mitzvah qui est faite sans Kavana, elle est dans le monde de Asiya. Une mitzvah qui est faite avec une Kavana instinctive, elle est dans le monde de Yetira, Trazak. Une mitzvah avec une Kavana analysée, elle se trouve dans le monde de Bria. Et la majorité des tzadikim se trouvent à ce niveau-là. Alors que ceux qui ont la Kavana instinctive se trouvent la majorité dans la troisième phase. Qui c'est qui monte à la première phase, la plus haute, enfin nous on l'a fait la dernière, hein. C'est les grands tzadikim. Mais, avec quoi on a conclu ici, très important de se rappeler de ce point qu'on explique ici. Nous aussi, quand on fait l'Amida, on est à ce niveau-là. Là, maintenant, comme j'ai dit, la semaine prochaine, c'est très important. Parce que la semaine prochaine, on va expliquer la différence entre quand on fait une mitzvah avec Kavana et quand on fait une mitzvah sans Kavana. Et on va un peu mieux expliquer le concept de Kavana instinctive. Parce que Kavana analysée, ça on a expliqué il y a 3 semaines, le concept de Kavana instinctive. Ça veut dire, analysée, ça veut dire que je réfléchis, et tellement je réfléchis que je sens la chose. Ça, on comprend. D'accord? Par exemple, je réfléchis à quelque chose, tellement j'ai réfléchi que j'aime la chose, que je vais sentir que j'aime la chose. Ça s'appelle une Kavana analysée. Kavana instinctive, c'est beaucoup plus difficile à définir. D'accord? Vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai expliqué sur Kavana instinctive? J'ai dit que je fais la mitzvah parce que je suis juif. Bon, c'est très difficile à expliquer. On peut rentrer aussi dans le concept de routine. D'accord? Je fais pas la mitzvah parce que je suis juif. Je fais la mitzvah de la même manière que le matin je me lève, je me brosse les dents. Mais de la même manière, je fais la tfila. Et si un matin j'ai pas fait la tfila, ben c'est comme si je me suis pas brossé les dents.
Instinctif, c'est une Kavana instinctif.
Non! C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Alors justement, ça on verra la semaine prochaine. C'est pas de l'instinctif, ça. Ça, c'est pas de l'instinctif. C'est de la routine.
Ça, c'est quoi ?
Ça, on va expliquer la semaine prochaine.
Ça, c'est.
Oui, ça, c'est. Ça, on va expliquer les différences.
Et celui qui fait pas de mitzvot du
tout. C'est important ce qu'on va expliquer la semaine prochaine parce qu'en vérité, ça va nous concerner parce que nous, on a vu ici les tzadikim, eux, ils sont ou dans la kavana analysée ou bien ils sont carrément l'outil de Dieu. D'accord? Nous, on est plutôt entre les deux niveaux. C'est où on n'a rien ou Kavana instinctive. Donc il faut définir qu'est-ce que c'est cette Kavana instinctive. Pour avoir la réponse, il faut venir la semaine prochaine. Voilà, vous avez eu le preview.